Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis à la une de l'hebdomadaire cette semaine, une citation de Benoît Hamon, « À gauche, nos différences sont dépassables ». Denis Sifer, bonjour.
Bonjour.
Votre édito « Une société malade », vous évoquez un climat politique actuel inquiétant avec une violence omniprésente. Pour vous, est-ce l'État qui engendre cette violence ?
Il y a une violence d'État, ça c'est des violences policières dont on a beaucoup parlé dans le journal. Et ces violences policières sont particulièrement coupables, si j'ose dire, dans la mesure même où elles sont ce qu'on appelle la violence légitime, le monopole de la violence légitime. Et on a vu qu'il y a eu des gens qui ont été mutilés, donc ça c'est assez grave. Mais je dirais que c'est pas l'État, ce sont des politiques gouvernementales successives qui ont créé un climat de défiance généralisée, d'incrédulité, qui ont alimenté le complotisme, le conspirationnisme, qui est aujourd'hui, malheureusement, largement responsable des violences.
Une des causes de cette colère, c'est la politique économique. On se souvient de la phrase de Lionel Jospin, « L'État ne peut pas tout ». Le président Macron a-t-il finalement les leviers nécessaires pour transformer en profondeur l'économie du pays et apaiser les frustrations des manifestants ?
C'est une vraie question, parce qu'il y a effectivement le carcan européen, le carcan budgétaire. Je pense qu'il a quand même des marges de manœuvre. Ce n'est pas l'Europe qui l'a obligé à supprimer l'ISF, qui est devenu à la fois une mesure économique préjudiciable et en même temps quelque chose de très symbolique et négativement, puisqu'on voit bien que les Gilets jaunes réclament le rétablissement et ça a été interprété comme en effet une politique au profit des plus riches et au détriment des plus pauvres. Les gens ont voté pour Macron pour un équilibre droite-gauche, c'est celui dont ils se réclamaient d'ailleurs. Et finalement, beaucoup pensent, et il a plutôt accrédité cette idée, que c'était une politique très libérale, et donc plutôt de droite, plutôt au profit des riches. Donc ça, c'est quelque chose qui dépendait largement de lui. Ce sont des choix qu'il a faits, donc personne d'autre n'est responsable. Cette déception, cette désillusion d'une grande partie de l'électorat, je pense, est beaucoup à l'origine des mouvements sociaux auxquels on assiste aujourd'hui, voire même des violences. Mais ça n'excuse pas les violences, par contre, parce que les violences, c'est quelque chose qu'il faut traiter en soi et qui n'ont aucune excuse, quel que soit le fond politique de l'affaire.
Pourquoi revenez-vous dans votre éditorial sur les conséquences du référendum de 2005 ?
Parce que précisément, je pense que c'est une vieille affaire. Vous savez, le discrédit, disons, des institutions, le discrédit de la politique et des personnalités politiques vient d'un certain nombre de faits marquants comme ça. Alors, quand on veut combattre le complotisme, par exemple, on nous cite toujours l'intervention américaine en Irak en 2003 et le mensonge américain sur les armes de destruction massive qu'aurait possédé Saddam Hussein. Et puis quand on parle, disons, de la crédibilité des gouvernements français, on nous parle du référendum de 2005, le non l'avait emporté, puis finalement il y a eu 3 ans plus tard le traité de Lisbonne qui a rétabli finalement grosso modo le texte qui avait été rejeté par les Français. Donc il y a un grand sentiment de duperie. On peut ajouter beaucoup d'autres exemples, celui-là est le plus marquant et le plus caricatural. Et même quand Hollande fait sa campagne en disant « mon ennemi c'est la finance » et en promettant de reconsidérer le traité budgétaire européen et qu'il le signe le lendemain de son élection, c'est la même chose. Il y a toute une section de choses comme ça qui font qu'il y a une très grande incrédulité dans la chose publique.
Les Gilets jaunes rassemblent des personnes aux idées diverses et parfois contradictoires. Est-ce que cela ne les condamne pas à l'échec ?
L'échec, je ne sais pas ce que ce serait l'échec, c'est-à-dire que ça n'ira pas très très loin de toute façon, ça n'a pas vocation à se structurer visiblement, sauf certains qui veulent faire des listes pour les européennes. De toute façon, ils ont remporté quand même une victoire, c'est-à-dire qu'ils ont réimposé la question sociale dans le discours politique, au centre du discours politique. Une question sociale qui était largement oubliée au cours des années, même peut-être des décennies précédentes, parce que l'affaire dont on parle, c'est une affaire vieille de 30 ans, hein, c'est pas simplement Macron. Donc je pense qu'ils ont imposé quelque chose. Maintenant, en effet, c'est un mouvement infiniment composite, et avec même, disons, des infiltrations de gens qui sont très très peu recommandables, qui discréditent le mouvement. Enfin, en tout cas, c'est largement exploité comme ça par le gouvernement, et on peut le comprendre à certains égards.
Quelle est la solution pour sortir de cette situation de crise, des élections et notamment des élections européennes à venir?
Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de situation de crise de ce genre dont on sort sans consultation de la population. Et alors, il est question de référendum, mais si référendum, je le dis un peu méchamment, c'est un référendum faisandé, parce que qui surviendrait le même jour que les élections européennes, qui serait à réponse multiple et contradictoire. On voit bien que encore une fois, ça risquerait d'être interprété comme une embrouille. Donc finalement, il y a un scrutin qui se présente à nous, qui est l'élection européenne. Ce serait pas mal qu'il y ait à cette occasion un vrai et grand débat, parce que c'est la question européenne. Si vous le disiez vous-même dans votre question précédente, Macron ne peut pas tout, il est aussi dans une règle du jeu européenne, et donc c'est aussi au niveau de l'Europe que les questions doivent se réformer. Donc pourquoi en effet ne pas profiter de ce scrutin pour avoir un débat qui aboutisse à quelque chose qui atterrisse? Parce que j'ai un peu peur que les grands débats actuels aient beaucoup de mal à atterrir une fois qu'on sera en face d'un foisonnement de propositions parfois contradictoires.
Merci Denis Siffer, votre édito dans Politis, une société malade. La une de l'hebdomadaire cette semaine, une citation de Benoît Hamon, « À gauche, nos différences sont dépassables ».
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.